J'ai vraiment répondu à la question « Et si la peur n'existait pas, bah, qu'est-ce que je ferais ?» Et là, j'ai commencé à écrire « Je partirais de Paris parce que j'aurais pas peur de recommencer une vie à zéro, sans amis, sans rien. Je montrerais ma boîte parce que j'aurais pas peur potentiellement de me planter. » Et en fait, j'ai fait une liste. Je me suis dit « Là, j'ai tout perdu, j'ai plus rien. Autant te dire que allons-y. » Il y a beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui qui vont avoir peur de se lancer parce qu'ils n'ont pas ce degré de conscience que finalement, en étant eux-mêmes et en faisant un projet qui leur parle et qui les anime, c'est ça qui va contribuer à leur bien-être. Et comme par hasard, ils vont dégager aussi même inconsciemment, en fait, tout ce bien-être. Et là, les planètes vont s'aligner et ça va bien se passer.
Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?» au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi ? Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter Aurélie. Je la connais depuis l'adolescence, nous n'avons jamais été très proches, mais nous nous suivons depuis maintenant plus de 20 ans, et d'autant plus depuis que nous avons toutes les deux initié un virage total dans nos vies. Aurélie fait clairement partie des personnes que j'admire pour sa résilience. Nous sommes à la veille du lancement du programme « Trouver sa mission de vie et écouter sa petite voix ». Un immense merci pour l'accueil que vous lui avez réservé et à ceux qui m'ont fait confiance en s'inscrivant. J'ouvre la petite parenthèse traditionnelle. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à en parler autour de toi et à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Pour moi, à chaque fois, c'est un immense plaisir. Revenons-en à Aurélie. Aurélie a fait une école de commerce et passé 10 années en marketing chez Winamax. Passionnée de pâtisserie et adorant les défis, elle a été demi-finaliste du concours du meilleur pâtissier. Un jour, elle s'est demandé qu'est-ce qu'elle ferait si elle n'avait plus peur. La réponse a été de quitter Paris pour vivre à Bordeaux et créer Endorphine Kitchen. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Aurélie Kalt.
Bonjour Aurélie.
Bonjour Charlotte.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît ?
Alors, j'ai choisi une balance parce que je trouvais cet objet super symbolique à tout niveau. La balance, pour moi, c'est l'objet que mes clients détestent, qui va leur faire passer une très mauvaise journée s'ils ont un kilo de plus sur la balance ou une excellente journée, donc c'est absolument terrifiant. C'est une balance à titre personnel, moi, qui m'a gâché 10 ans de ma vie. Et... c'est aussi un produit qui représente aujourd'hui l'équilibre de vie. Et j'ai créé Endorphine justement en me disant que l'équilibre de vie, c'était un ensemble de choses. Donc, cet objet, c'est vraiment... en plus, elle est belle, cette balance. C'est vraiment le symbole de ma vie d'avant, de la vie de mes clients aujourd'hui et de l'équilibre aujourd'hui que j'ai trouvé en changeant de boulot.
Et puis, si tu peux me permettre, il y a aussi la balance en pâtisserie.
Ah oui, j'ai oublié ça. Oui, effectivement, la balance en pâtisserie, qui est un petit peu une de mes grandes passions. Donc, la balance en pâtisserie, évidemment, tu as tout à fait raison. Ouais.
Surtout qu'en plus, en pâtisserie, ce n'est pas comme la cuisine, c'est vraiment au gramme près.
Au gramme près. J'aime beaucoup ce côté un peu psychorigide de la balance au gramme près, en tout cas pour la pâtisserie, pas pour le poids.
Est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi, où est-ce que tu es née ?
Alors, je suis née à Paris. J'ai grandi à Neuilly-sur-Seine. Avec une sœur jumelle et un petit frère, où je peux dire, sans avoir honte, avoir eu une enfance heureuse et équilibrée, jusqu'à 15 ans, les premiers problèmes de poids, on va dire. Voilà.
Et avant qu'on parle des 15 ans, les problèmes de poids, t'étais quoi comme type de petite fille ?
Il fallait qu'on me remarque, il fallait qu'on me regarde, parce que je pense, avec un peu de recul, qu'en ayant une sœur jumelle, le temps que les parents peuvent accorder est divisé par deux, ce qui est logique. Et c'est vrai que j'ai toujours eu ce tempérament de « regardez-moi, j'existe !» Et c'est vrai que je le vois aujourd'hui dans ma vie, avec ma sœur, on est complètement différentes. Mes défauts sont ses qualités et ses qualités sont ses défauts, c'est assez marrant.
Ouais, puis ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une blonde et une brune, quoi. C'est pas
voilà. Bon, elle est un peu plus certain cas, mais c'est vrai que petite, elle était blonde, et moi j'étais très très brune. Elle avait la peau claire, elle avait la peau très mate. On était déjà très différentes. Et j'ai forcé ce trait même à l'école où j'étais très mauvaise à l'école. Elle était très très bonne à l'école. Et c'est vrai, quand on s'est séparés au bac, je suis devenue, j'ai eu un niveau tout à fait respectable. Donc c'est vrai que la comparaison, c'est arrêté à ce moment-là.
Ouais, après, tu disais que tu n'étais pas bonne élève, mais bon, toutes ces circonstances gardées.
Oui, mais c'est pour qu'on s'occupe de moi, je pense, tu vois.
Voilà. Non, et puis dans le sens où finalement, tu as fait un bac généraliste.
Oui, je fais un bac ES.
Ouais. Mais bon, c'est ce qu'on disait avant de brancher le micro, c'est que être mauvaise élève dans un collège lycée privé à Neuilly, c'est pas être un mauvais élève en fait.
C'est clair. Bon, après, j'ai pas vraiment aimé l'école jusqu'au bac, je t'avoue, mais ça a été plutôt rentrer dans un cadre, faire ce qu'on me dit. C'était pas vraiment ma tasse de thé, quoi.
Et c'était quoi tes activités, tes passe-temps quand t'étais petite?
Écoute, je me souviens avoir été un peu virée de la classe de danse classique parce que j'étais trop dissipée. Tennis, j'ai été virée parce qu'en gros, j'étais trop mauvaise. Donc, je me suis
rabattue. On devait être au même club de tennis alors, parce que moi aussi, je me suis fait virer.
Et premier traumatisme d'ailleurs de vie, c'est quand on m'a dit, bah là, tu vas aller au cours de tennis des petits. Avec des mini filets, et ça je dis c'est pas possible, donc je suis partie. Dès la premier rejet dans ma vie, ça a été terrible. Et donc du coup, dès la sixième, j'ai fait du théâtre dans une association qui s'appelle Les Tréteaux Blancs, et j'y suis restée, mais j'ai envie de dire toute ma vie, mais pratiquement toute ma vie, parce que j'ai arrêté en seconde, à 16 ans je crois, 15-16 ans. Et après je suis devenue secrétaire d'association jusqu'à mes 28 ans.
D'accord. Et pourquoi le théâtre ?
Le théâtre, c'est ma passion. Bah, le théâtre, je pouvais m'exprimer, je pouvais enfin dire ce que je voulais. Et puis, tu vois, je pense qu'il y a toujours eu ce problème, j'ai un peu honte de dire ça, mais ce problème de « regardez-moi, j'existe », tu vois. Finalement, le théâtre, c'est se dépasser tout le temps, et je pense que c'est vraiment ça qui a été un peu le fil rouge de ma vie. Se dépasser, challenge, voilà. Et là, si j'avais le temps, j'en referais, parce que je trouve ça absolument grisant.
Ouais, mais est-ce que c'est un problème de temps, si je peux me permettre?
Là, j'ai repris, tu vas rigoler, mais j'ai repris des cours la semaine avant le premier confinement de mars. Je me suis inscrite et il y a eu le confinement. Donc vraiment, dès que c'est réouvert, alors pas des cours de théâtre parce que j'ai pas envie de rentrer dans une troupe, etc., mais des cours d'improvisation. Je me dis, j'ai jamais fait, j'ai vachement envie d'essayer.
Et quand tu étais petite, tu disais oh, « quand je serai grande, qu'est-ce que je ferai ?» C'était quoi tes rêves ?
J'adorais la cuisine déjà quand même. Et c'est vrai que si j'avais pu, moi j'aurais voulu faire les cours flancs, clairement. C'était pas trop l'ambiance de la famille. Où on avait
T'en avais parlé ?
Ah oui, ouais. On avait la chance de faire des études. Ma sœur voulait faire une école de dessin et moi je voulais faire du théâtre. Et on nous regardait... Vous êtes bien mignonnes, les filles, mais vous ferez ça en cours du soir. Après, je remercie nos parents aujourd'hui, tu vois, j'ai pas de regrets. Mais c'est vrai que dans une autre vie, j'aurais adoré faire les cours Florent et puis faire du théâtre et en vivre, tu vois. Vraiment. Et l'autre passion, la cuisine. Donc, l'autre là, qui est venue un peu plus tard, mais voilà, faire l'école Ferrandi, c'était aussi quelque chose qui m'attirait énormément.
Du coup, c'était plus la cuisine que la pâtisserie ?
Alors, quand je dis cuisine, non. Tu as raison d'insister là-dessus, c'était la pâtisserie, ouais. La cuisine, oui, mais la pâtisserie, il y a un côté qui est difficile par moment. La première fois que je fais des macarons, parce que du coup, j'ai appris la cuisine toute seule, j'ai raté les macarons, je pense, une cinquantaine de fois. Et le jour où tu réussis tes macarons, mais en fait, tu as l'impression d'être la plus heureuse du monde et d'être puissante. Et puis moi, je me lasse très vite des choses. Donc, une fois que je vais faire des macarons, je passe à autre chose, tu vois. Mais ouais.
Et au moment, du coup, de choisir ce que tu allais faire en terminale, enfin en première, comment ça s'est passé ?
J'ai pas choisi, en fait. C'était l'opportunité qui a fait que je suis allée dans cette école qui était pas loin de la maison. Comme je savais pas ce que je voulais faire et que j'avais le droit de faire des études et qu'on m'avait dit que c'était pas du théâtre ou pas de la cuisine, j'ai fait une école de commerce parce que ça me laissait le choix, tu vois. Mais je suis arrivée, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. Et je me suis éclatée dans cette école, d'ailleurs, parce que c'était... le début de la liberté, le début de je pouvais avoir une vie sans être la sœur d'eux. Enfin, tu vois, c'était top.
T'existais pour toi, quoi.
Ouais, ouais, j'ai adoré, adoré.
Et donc, tu as fait cette école de commerce en te disant, bah, on verra bien, on verra bien. Est-ce que tu as fait du coup du théâtre en cours du soir?
Non, parce que c'était... en fait, si tu veux, après avoir connu les Tréteaux Blancs, qui a été quand même une asso absolument dingue, où en fait, on jouait pas, si tu veux, une journée pour nos parents à la fin de l'année. On jouait quand même le mercredi après-midi dans les hôpitaux pour les enfants malades. On avait je ne sais combien de dates de tournée. Et si tu veux passer dans une troupe de théâtre où tu faisais deux représentations en juin, ça m'intéressait pas du tout. Et je t'avoue, je n'ai pas retrouvé un truc aussi bien que les Tréteaux.
Tu t'es lancée donc dans cette école de commerce. Et puis après, au moment de choisir tes stages, comment t'as arbitré?
Encore une fois, une question d'opportunité. Je voulais absolument faire mon stage à l'étranger. Ça s'est fait comme ça. J'ai fait un stage à Madrid. Et on est parti, je me souviens, avec le mec de l'époque à Madrid. Et là, j'ai eu une première claque parce que dans mon petit cocon de Neuilly-sur-Seine, où je vais à l'école à pied, où je vais à l'école de commerce avec deux stations de métro, la vie était simple. Et là, en stage, je sais pas, j'avais 19 ans, je me tapais une heure et demie de transport et c'était pas une heure et demie de train. Fallait être à 8h du matin chez Citroën d'ailleurs. Et j'avais une heure et demie, alors RER, métro, plus train, plus bus. Et donc, sur 6 mois de stage, j'ai dû chialer 3 mois, tous les jours. Et après, je voulais plus partir, évidemment. Mais si tu veux, la première confrontation dans le monde pro, ça a été une réalité qui a été très difficile pour moi. De me dire, mais c'est ça la vie de boulot, c'est des contraintes, c'est 3 heures de transport tous les jours. On déjeune forcément avec les gens qu'on n'a pas envie de voir forcément toute la journée. Ça a été une confrontation assez difficile.
Et tes parents, ils faisaient quoi comme travail?
Alors, mon père, il était dans un groupe américain courtage en assurance. Et maman, elle a bossé pas mal de temps dans différentes boîtes, notamment une boîte d'import qui importait du tech en France. Voilà. Et là, aujourd'hui, elle a changé de boulot. Elle est directrice générale d'une boîte.
Mais à travers leur expérience, tu t'avais pas pris conscience de cette réalité du travail-là?
Pas du tout, non. Pas du tout, pas du tout. C'est pas forcément des choses qu'on échangeait entre parents et enfants, tu vois.
Et donc, ton premier job, c'était chez Winamax?
Ouais, je l'ai eu complètement par erreur. Je suis partie à Londres, juste à la fin de Winamax, rejoindre la personne avec qui j'étais. Et... c'est assez marrant parce que je répondais à une annonce, je crois que c'était pour le groupe Tesco.
Et des supermarchés anglais.
Exactement. Et en fait, c'était un site internet d'annonce qui s'appelait Ici Londres, je m'en souviens très bien. Et en fait, j'ai fait Tesco, c'est super, Tesco, c'est génial sur ma lettre de motivation. Et en fait, je me suis trompée, j'ai pris l'adresse mail de l'annonce au-dessus. Et c'était la boîte Winamax. Donc en fait, la DG a reçu Tesco, c'est super, Tesco, c'est génial. Et elle me dit, écoutez, votre CV nous intéresse. Donc, je me dis, boîte de poker, boîte de mecs, j'aime pas le poker, je sais même pas y jouer. J'y vais pour passer le premier entretien de ma vie, tu vois. Et écoute, c'était assez marrant parce que j'étais tellement pas stressée, comme j'avais surtout pas envie d'y aller, que ça s'est bien passé. Et que finalement, j'y suis restée 10 ans, quoi.
Ah, c'est fou, hein. Et c'est quand même cool qu'ils t'aient recontacté alors que t'avais mis Tesco, c'est super. Enfin, moi, je sais que potentiellement, à l'époque, je recevais une lettre de motive en me disant que je me dis, clairement, elle s'est plantée. Elle s'est plantée.
Ouais. Mais finalement, tu vois, je me mets à sa place. Moi, si je recherche quelqu'un qui a ce profil-là, c'est du temps de gagner. Tu vois, tu réponds. Mmh. Et puis, j'y suis allée et ça a été pareil. Hein. Les débuts ont été super, super difficiles. Je parlais pas de mots d'anglais, c'était une création de poste, il y avait tout à faire. Chez Winamax, je crois que je suis arrivée, j'étais la 4e personne. Aujourd'hui, ils sont, je sais pas, 170, 180. Il y avait tout à faire et c'était, avec du recul, génialissime comme expérience. Mais je peux te dire que pendant 1 an et demi, j'en ai bavé.
Ouais. Donc là, c'était basé du coup à Londres et tu faisais du, ouais. tu faisais du marketing, mais bon, dans une boîte avec 4 personnes, on imagine que tu faisais un peu plus que du marketing.
En fait, il y avait tout à créer. Donc, il y avait le poker et puis il y avait une boutique à créer de A à Z. Donc, il fallait trouver des fournisseurs, alors notamment en Chine, il fallait créer une marque, il fallait créer des produits dérivés. Donc, c'était sur le papier, tu vois, vraiment avec du recul, je me dis, mais quelle chance j'avais. Jamais j'aurais eu cette chance-là en France. Tu viens de naître quand tu sors d'école de commerce, finalement, tu vois. Et c'est vrai que là, ils m'ont donné une chance incroyable, hein. Clairement. Puis une boîte qu'avec des... Finalement, après, il y a eu... c'était une boîte qu'avec des mecs, ça forge aussi un peu ton caractère. Hein.
Alors, en même temps, peut-être que c'était ta façon aussi à toi d'avoir ta place et d'être différente et ouais, d'être dans la sûrement. Lumière.
Sûrement, sûrement. Mais c'était une expérience de dingue parce que, tu vois, d'une mini-startup à la réussite qu'on connaît de Wina aujourd'hui, c'est quand même une chance géniale. Et je suis très contente, tu vois, d'avoir été en CDI pendant autant de temps et de monter ma boîte après. Je pense que tu apprends quand même beaucoup hein, dans la relation fournisseur, dans la relation avec les autres. C'est vraiment une chance d'avoir quand même bossé avant.
Mon père, il m'a dit un jour, lui, il a monté sa boîte quand j'étais toute petite. Et moi, j'ai toujours dit que je voulais monter ma boîte un jour. Et il m'a dit, tu sais quoi ? T'apprends chez les autres, tu fais les conneries chez les autres et puis après, tu montes ta boîte.
Énorme. Bah, je trouve ça extrêmement juste. Extrêmement juste, ouais. Clairement.
Et donc, Winamax, donc, pendant Winamax, tu as commencé à pâtisser de plus en plus.
Alors, c'est quand je suis rentrée en France. Je suis restée 3 ans à Londres et après 7 ans en France chez Winamax. Et c'est vrai que quand je suis rentrée en France, bah, j'ai pris un appartement, j'ai acheté du matériel de pâtisserie et surtout, j'ai ouvert un blog de cuisine.
Juste avant qu'on parle de ton blog, pourquoi t'es partie de Londres ?
Parce que la boîte rentrait en France.
C'était une boîte française ?
C'était une boîte, si tu veux, c'était une boîte à Londres, mais on rentrait pour attaquer le marché français.
D'accord, ok.
Donc, il y a une partie de l'équipe qui est rentrée en France et du coup, moi, je suis rentrée en France. J'étais assez contente, j'avais fait mon temps à Londres. Et du coup, je sais pas, ça a été pile à ce moment-là, j'ai ouvert un blog de pâtisserie.
Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'ouvrir un blog de pâtisserie ?
Bah, en fait, c'est marrant, c'est que c'était purement égoïste au départ. J'avais des recettes sur des bouts de papier éparpillés partout. Et je me suis dit, c'est quand même bien plus simple si je les ai au même endroit. Donc, voilà, je vais me faire un petit blog, puis je les aurai. Puis, j'avais quand même quelques amis qui me demandaient des petites recettes. Ah, mettons ta recette de machin, file-la-moi. Voilà, je me suis dit, c'est très pratique. Très pratique. Donc, j'ai fait ce blog pendant des années. Et puis, à peu près 5-6 ans de Winamax... Là, j'ai commencé à faire des concours de pâtisserie.
T'as fait quoi comme concours ?
Il y avait un concours qui était tous en cuisine avec Ducasse. Il y avait un concours aux Fouquettes aussi. C'était canon. C'était vraiment absolument une expérience incroyable, ce truc.
Pourquoi ?
Parce que on était 3 finalistes et ils nous avaient fait dormir aux Fouquettes. On avait dîné. On avait eu un dîner incroyable. Il y avait des caméras qui nous suivaient. Enfin, c'était le concours génial. Et en fait, cette pression, si tu veux, mais j'ai adoré. Évidemment, j'ai pas gagné. Mon grand niveau dans ma vie, c'était d'être troisième ou seconde, tu vois. Mais j'avais une première, ça m'a toujours hyper frustrée. Mais j'avais adoré cette pression et ouais, je crois que j'adore, tu vois, cette pression qu'on peut ressentir.
Cette adrénaline.
Ah ouais.
J'adore. Et pourquoi t'as commencé à faire des concours?
Je sais pas, peut-être que j'ai toujours... Franchement, je pense que j'ai toujours eu ce besoin de me mettre un peu en danger, tu vois. Le théâtre, bah, c'est une façon de se mettre en danger aussi. Tu vois, tu peux compter que sur toi, il n'y a personne qui va te sauver. Et la cuisine, bah, finalement, passer des concours, c'est se dépasser, c'est apprendre d'autres choses, c'est accéder à un niveau supérieur, etc.
Ouais, s'auto-challenger en permanence.
Ouais, grave.
Et le concours bah, le plus connu que tu aies fait, c'est le meilleur pâtissier.
Ouais. Alors ça, c'est marrant, c'est grâce à Winamax aussi. C'était Norbert, tu vois, Norbert et Jean. Mmh. Il y avait une soirée de boulot chez Winamax. Et Norbert vient me voir et puis il me dit « Mais j'espère que tu t'es inscrite à ce concours sur M6. » Je lui dis « Bah non. » Et puis tu sais, je viens en plus de refuser de faire un dîner presque parfait spécial blogueur. Et là, il m'engueule en me disant « Mais t'as rien compris à la vie. T'aurais dû accepter. T'aurais eu un pied chez M6. » C'est ridicule, tu t'inscris, je crois que ça ferme bientôt, le meilleur pâtissier, les inscriptions, donc tu t'inscris, je dis, mais moi je suis pas du tout la meilleure pâtissière de France, autant je peux avoir confiance en moi, autant pas de prétention à ce niveau-là, quoi. Bon, puis je suis rentrée chez moi, j'ai fait tout le dossier toute la nuit. Et là, tu commences à rentrer dans un trip de d'évaluation, enfin de d'élimination, tu vois. Pendant 2 mois où tu te fais éliminer plus que 1000, plus que 500, plus que 40, plus que machin. Et pas une seule fois, je me suis dit que j'allais être dans les 10. Moi, c'est vraiment, OK, jusqu'où je vais, tu vois. Et puis quand tu es dans les 10 et qu'on te dit, bah, tu tournes dans un mois et demi, là, je me suis dit, comment je vais faire avec mon taf? Et c'est vrai que mes boss de Winamax ont été top, vraiment top. Ils savaient que c'était ma passion et ils m'ont laissé partir. Je lui ai dit, écoutez, je leur ai dit, je pars entre 3 jours et 8 semaines.
Ouais, bah oui, c'est ça, c'est.
Je ne peux pas vous dire. Je pars entre 3 jours et 8 semaines. Bon, et j'ai tenu 7 semaines. Donc, finalement, ça a été beaucoup, quoi.
Ouais.
Ouais.
Et comment tu l'as vécu, du coup, le concours?
Si c'était à refaire, je ferais tout, je referais tout pareil. Ça, c'est le premier point. Quand je parle de meilleur pâtissier, j'adore avoir 25 000 superlatifs parce que c'était soit très, 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 très difficile, soit absolument génial, tu vois. Ce qui a été génial, c'est que c'est une expérience où t'es dans une bulle, tu vis un truc quand même qui est hors norme, voilà. Ça m'a permis d'avoir l'expérience de pression et d'adrénaline pendant 7 semaines d'affilée. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'a jamais dans la vie, en fait, à ce point-là, en tout cas. Et c'est vrai qu'avec le recul, j'en ai pris tellement plein la gueule au niveau critique sur les réseaux sociaux après
ouais,
la diffusion.
Ouais, tu t'étais les gens n'avaient pas été très sympas avec toi.
Après, si tu veux, moi je les comprends. J'aurais vu ce personnage-là à la télévision, je me serais détestée. Enfin, j'aurais détesté ce personnage.
Pourquoi? C'était
parce que la prod, c'est le jeu, si tu veux. T'as 10 personnages, tu as c'est une pièce de théâtre. Tu as la personne qui a eu une enfance difficile, qui doit se battre pour y arriver. Tu as la nana première de classe. Tu as bon, si tu veux, moi je sais très bien, et c'est pour ça que j'ai eu aussi ce rôle entre guillemets. Moi, c'était la petite bourge parisienne qui met du vernis à ongles, et ils avaient fait un portrait de moi chez Winamax quand ils étaient venus me filmer à Mominam, où j'étais avec une veste. Et il y avait plein de mecs autour de moi. Et en gros, ça faisait vraiment le diable s'habillant en Prada, tu vois. Genre la nana qui encadre une dizaine de mecs. C'était pas du tout ça. Mais si tu veux, j'avais ce rôle-là de la parisienne. Donc, t'as la parisienne, t'as les 3/4 de la France qui te détestent, déjà. T'es pas obèse, donc t'as un autre quart qui te déteste parce que tu fais de la pâtisserie, t'es pas grosse. Donc, c'est déjà un problème pour beaucoup. Ça, j'ai eu beaucoup de critiques là-dessus. On me disait, mais pourquoi t'es pas grosse? Ouais. Et ce qui a été difficile, c'est que t'as des déclarations d'amour de taré et t'as des nanas qui te disent, écoute, je préférais vraiment que tu crèves plutôt que de revoir ta gueule lundi matin à la télé. J'ai quand même eu ça.
C'est hallucinant.
Et là, je me suis dit, bah, soit je vais voir un psy, soit j'écris mon blog, en fait, les coulisses de chaque émission. Et ce qui me frustrait, c'était finalement la façon dont c'était monté. Ça reflétait pas la réalité. On a l'impression dans cette émission que je disais putain merde fiché H24. C'est vrai que je disais putain merde fiché de temps en temps, mais pas H24 si tu veux.
Ouais, ouais, ils ont grossi les traits, c'est une caricature.
Exactement. Après, ouais. Encore une fois, c'est le jeu de la télé, il faut l'accepter, tu vois. Mais du coup, moi, ma thérapie, je l'ai faite toute seule en écrivant sur mon blog comment c'était vraiment passé chaque tournage. Et après, finalement, bah, ça m'a vachement renforcée. Je vais pas te dire que tu m'insultes et tu me fais des critiques, ça me fait rien, mais je pense que j'ai une carapace aujourd'hui que j'avais pas avant, clairement, et que ça m'a clairement fait grandir, tu vois.
Ouais, c'est une école de la vie intense.
Ouais, accélérée.
Ouais. Camille, elle disait que dans Chemin, qu'elle avait beaucoup de mal au début à se livrer devant la caméra. Alors après, toi, j'imagine qu'avec le théâtre, c'était quelque chose d'un peu moins difficile.
Alors. Pour le coup, le meilleur pâtissier, c'est spécial parce qu'encore une fois, tu as des ITV tous les jours après chacune de tes recettes et ils ont un but. Hein, ils veulent entendre certaines choses. Et c'est vrai que moi, j'avais trouvé la stratégie avec une de mes copines, Agathe, pour ne pas la citer, qu'il y a des moments où forcément, tu as envie de chialer, mais vraiment. Épuisé, tu te lèves hyper tôt, tu te couches hyper tard, les journées de tournage sont hyper longues et on mettait un paquet de cigarettes, si tu veux, devant nous parce qu'on savait qui ne pouvait plus filmer si on avait un paquet de clopes devant nous. Moi, je fume pas d'ailleurs. Hein. J'avais piqué ça à Agathe. Je le mettais devant. Et comme ça, si on est chialé 3 secondes, chialé 3 secondes, puis après, voilà. Mais je ne voulais pas, si tu veux, leur donner les images trash de horrible crack. Je crois qu'ils m'ont jamais vu chialer a priori. Ça a été ma grande fierté. Mais non, se livrer, ils veulent te faire dire des trucs. Ils voulaient absolument l'histoire avec ma sœur jumelle, l'émission nous a réconciliés, alors que pas du tout, tu vois, j'avais pas du tout envie de rentrer dans le perso pour le meilleur pâtissier.
Ouais.
Mais pas du tout.
Pourquoi l'émission? Parce que vous vous entendiez pas très bien à cette époque avec ta sœur?
Non, mais si tu veux, ils auraient adoré trouver des points d'accroche, tu vois. Il fallait que chaque personnage ait des histoires. Et limite, quitte à les créer.
Et comment ils ont appréhendé ça, ta famille, cette exposition médiatique?
Écoute, ça va pas plaire à ma mère, mais tant pis. La première question qu'on m'a posée, est-ce que ton nom de famille va apparaître à l'écran? C'est pas bravo ma chérie, on est fiers de toi. C'est est-ce que ton nom de famille va apparaître à l'écran? Je lui ai dit, ok, Manon, on est mal barré. Et au début, ils disaient, la télé, mais ça va pas, machin. Ils étaient hyper sceptiques. Et puis c'est l'inconnu fait peur, tu vois.
Ouais, puis en plus, c'était il y a quelques années, donc il y avait pas, c'était pas aussi connu.
Saison 2, ouais.
Ouais.
Et je leur ai dit, écoutez, c'est très simple, c'est soit vous me soutenez ou vous me soutenez pas, mais dans ce cas-là, votre stress, vous le gardez pour vous. Parce que moi, je vais avoir besoin de soutien. Donc voilà. Après, ils ont accepté. Après, c'était les premiers à regarder chez Kémission, tu vois. Mais je pense qu'il y avait une part d'appréhension. Qu'est-ce qu'on va faire des images? Comment ça va être fait? Voilà. Donc, j'avais pas besoin de leur stress, quoi.
Et comment ils l'ont vécu, du coup, le fait que c'était été beaucoup critiqué?
Bah, en fait, ils l'ont pas vécu parce que c'était sur les réseaux sociaux. Donc ça, ils en savent quasiment rien, si tu veux. Et tant mieux.
Et la gentille personne qui t'a dit « je préférais que tu crèves », ça, la prod d'M6, ils vous soutiennent pour ce genre de choses?
Si tu veux, pas du tout, dans le sens où on avait obligation d'ouvrir les pages Facebook « Aurélie, le meilleur pâtissier », machin. Là, c'est d'accord, des messages que je recevais. Ils te disent, le seul point qu'on vous donne, c'est de ne pas répondre aux commentaires pour être tranquille. C'est difficile de ne pas répondre. Hein. Mais j'ai tout eu. Après, j'ai eu des... Aurélie, c'est la sœur ou la cousine cachée de Faustine, la présentatrice. Ils avaient fait des montages photos. Donc, j'étais en demi-finale parce que j'étais dans la famille de Faustine et que j'étais pissonnée. Après, j'ai eu une histoire d'amour, évidemment, avec Cyril Lignac. Enfin, moi, j'ai tout eu. Voilà.
Ouais.
Voilà, ça me fait rire aujourd'hui.
Bon, en même temps, j'ai un peu l'impression que chaque année, on prête une histoire d'amour avec Cyril.
Ouais. Mais encore une fois, pour accrocher le téléspectateur, bah, il faut de la matière, tu vois. Donc, je le comprends. Mais aujourd'hui, tu vois, aucune envie de revenir. On m'a proposé plusieurs années de revenir le meilleur pâtissier. Tu sais, les anciens reviennent, machin. Oui. J'ai aucune envie de repasser à la télévision. Pour être heureux, vivons cachés, quoi. Franchement, ouais. Ouais, ouais.
Et donc après, le meilleur pâtissier, ça t'a quand même ouvert. Donc, t'as été demi-finaliste?
Demi-finaliste, mais tu vois, c'est pas de la modestie du tout. Mais j'ai vraiment conscience que c'est mon personnage qui a intéressé la production. Il y a des personnes qui sont parties avant moi bien plus tôt et c'était pas justifié, qui avaient un niveau qui était bien, bien meilleur, bien supérieur. Et je sais que je suis arrivée en demi-finale. Pour le personnage qu'ils avaient décidé de créer, tu vois, j'en suis bien consciente, vraiment. Et ça a été un soulagement quand je me suis barrée, parce que après, ce qui est un peu dur, c'est que tu pars. Je me souviens, c'était un jeudi matin, et le jeudi après-midi, t'es à Paris, et là, tu te prends une claque monumentale. T'as personne qui te filme. Tu n'as pas de nounou. On avait une nounou, attention, qui nous suivait, qui devait savoir où on était à chaque instant, parce que le plateau est tellement grand que une minute de tournage, c'est très cher, donc il est hors de question de chercher un candidat. Et c'est vrai que le retour a été hyper difficile. Enfin, moi, j'ai eu 10 jours où je suis rentrée dans ma boîte le lendemain. Je regardais les gens en me disant, mais qui sont ces gens avec leurs conversations, mais inutiles, mais ridicules, superficielles, etc. J'avais un melon, mais énorme. Et je me souviens avoir dit à mes boss, laissez-moi quelques jours pour redescendre parce que vraiment, je regardais tout le monde avec un air, vous avez rien compris à la vie, c'est pas d'être derrière un ordi, vous avez des vies tellement nulles, mais mes amis, ma famille, hein. Et heureusement, j'ai eu ces phrases inintéressantes, superficielles à nouveau et je suis revenue dans la vraie vie au même niveau que les autres quelques jours après, tu vois, mais c'est vrai que tu sors de là, t'as un melon de, enfin moi j'avais un melon de, pas un melon tu vois, c'est pas un melon. T'as l'impression d'être au-dessus. T'as vécu un truc, tu peux pas en parler parce que c'est secret professionnel.
Ouais, tu peux pas dire, tu peux pas dire.
Tu peux rien dire à personne. Que t'es sorti. Évidemment, ouais. Tu sais que t'es allé loin parce que tu rentres au bout de 7 semaines, mais tu peux pas dire comment ça s'est passé. Et franchement, t'es déconnecté de la planète Terre, vraiment. Vraiment, ça a été hyper dur. Ça, ça a été mon premier déclic en me disant, je vais pas passer ma vie derrière un ordinateur. Premier déclic de changement de vie, ça a été celui-là. Tu vois, en me disant, là, franchement, c'est bien beau. Oui, je suis bien payée. Oui, j'aime ma boîte. Oui, j'aime mes petits collègues. Mais la vie, est-ce que c'est vraiment ça? Tu vois, je trouvais ça très fade.
Et financièrement, comment t'as fait pour parce que t'es pas payé le meilleur pâtissier te
si, paye si, pas. Si, j'étais payée chez Winamax comme toujours. En revanche, j'ai pris un an et demi de vacances, tu vois.
Tu veux dire un an et demi de quoi?
En gros, j'ai pris pas un an et demi. On avait 5 semaines. J'ai pris 5 semaines plus. J'ai pris 7 semaines de vacances. Donc tu vois, d'accord. J'ai empiété sur l'année d'après.
Ouais, donc après, t'avais plus de vacances.
Non, ça a été sympathique.
Bah ouais, parce que tu dis, un, t'as quand même ton rapport au travail qui change, et après, tu te prends pas de vacances.
Ouais, non, puis après, tu fais de la pâtisserie toute la journée, te retrouver derrière les tableaux Excel te semble tellement étrange. Moi, je me suis vraiment dit, mais c'est que ça va être quoi ma vie, quoi? Ça va être ça? D'aller au bureau à 9h, de repartir le soir, de déjeuner, allez, on recommence, et voilà, première petite graine, tu vois, c'est à ce moment-là.
Et à ce moment-là, il y a des marques, notamment, je crois que c'est Magimix qui t'a contacté pour.
Ouais, non, c'est Marmiton, en fait. C'est le boss de Marmiton, Christophe Duhamuel, qui, lui, c'est vraiment le déclencheur de ma nouvelle vie, qui m'a contacté en me disant, bah, écoute, on cherche plein de blogueurs pour créer des recettes et on en a plein sous la main. En revanche, qui ont pas peur de parler devant la caméra, c'est pas si simple à trouver. Est-ce que ça t'intéresse? Et alors, du coup, après, je posais des vacances pour aller travailler. C'était assez marrant. Et j'allais créer des recettes et faire des tournages chez Marmiton. Et c'était génial. Enfin, franchement, t'étais payé pour cuisiner. C'était quand même un truc de dingue pour moi. Et donc, du coup, avec l'accord de mes boss, j'ai créé un statut d'auto-entrepreneur où je bossais à côté pour créer des recettes et puis différentes marques, effectivement, dont Magimix. Pas mal de tournages vidéo et à côté, je bossais chez Winamax. Et tu vois, ça a été pas mal parce que c'était un pied dans un monde entrepreneur, mais sans aucun risque, tu vois.
Ouais, d'un autre côté, je me verrais pas. Douce.
Ouais, et puis d'un autre côté, je me voyais pas du tout faire ça toute la journée. Enfin, inventer des recettes, ça demande un minimum de créativité. Tourner, c'est assez fatigant aussi. L'équilibre était parfait, tu vois. Je gagnais très bien ma vie à l'époque. Franchement, c'est vrai qu'il y avait deux boulots, quoi.
Ouais. Mais et comment t'as ton entourage à l'époque? T'avais un chéri?
Ouais. Bah, c'est vrai que c'était assez. Ce qui était très bizarre, c'était reconnu dans la rue, tu vois. Et je comprends, si tu veux, qu'il y ait des gens qui prennent la grosse tête. Et tu vois, tous ces acteurs, on dit, ah, bah, ils sont pas cool, ils ont pas dit bonjour à tel fan dans la rue. Et avec un micro-dosage, hein, moi, j'étais pas du tout une grande star, mais j'étais très contente que ça s'arrête. Ça a duré 3 mois, les 3 mois de diffusion, et t'as une autre émission qui vient prendre la place, et t'es plus rien. Mais il y a 2 personnes de ma saison qui ont fait des dépressions parce qu'ils ont pas supporté, justement, de plus être reconnu, tu vois, de retomber dans l'oubli. Et moi, j'ai trouvé que c'était très, très bien l'oubli, quoi. Vraiment. Vraiment.
Et qu'est-ce qui a fait, du coup, que tu as quitté Winamax?
J'ai quitté Wina parce que ça allait faire 10 ans. Et je me suis dit, si je passe la 10e année, je vais remplir pour 10 ans. Genre, on sortirait avec des cheveux blancs. C'est pas possible. J'avais quand même vraiment, vraiment envie, de plus en plus envie de monter une boîte ou de m'associer, etc. Et en fait, ça s'est fait, encore une fois, hyper naturellement. C'est que j'ai rencontré un producteur de quinoa qui était péruvien et qui habitait en France et qui m'a proposé, en fait, qu'on s'associe pour monter une boîte, etc. Donc, j'ai quitté Winamax en mai, le 31 mai, et je suis partie 15 jours après au Pérou, 3 semaines. Et j'allais m'occuper de sa com et de son marketing, donc c'était absolument génial. Et ça, la vie est bien faite parce que, tu vois, ça, c'était en juin, juillet-août, les vacances, on va dire. Et puis septembre, fin septembre, début octobre, là, il y a mon monde qui s'écroule, tu vois. Mon monde qui s'écroule parce qu'il y a eu le décès d'une de mes excellentes amies, mes parents qui explosent en plein vol, séparation avec qui j'étais. Donc, je me retrouve avec, tu vois, aucun pilier stable. Le boulot, j'avais quitté Winamax, familialement cata, amicalement dévastée, amoureusement dévastée. Oh, l'horreur. Je me dis, mais en fait, là, qu'est-ce qui reste, tu vois? Et j'étais extrêmement mal et je me suis dit, mais en fait, là, soit je prends des antidépresseurs, soit je fais autre chose d'intelligent, mais je voyais pas, en fait. Je me suis dit, c'est pas possible. Et ce qui est génial, c'est que, je sais pas, la vie, encore une fois, est bien faite, mais on m'a proposé un jour de faire une séance de méditation. Et puis, j'ai découvert le MBSR et je me suis fait une formation de ça. Et en fait, ça a été ma boîte d'antidépresseurs, quoi. J'ai fait une formation de méditation poussée et c'était une révélation pour moi, vraiment. Une révélation. J'ai oublié quand même de dire un point hyper important, c'est que quitter mes Winamax, il y a eu un point qui a été aussi l'élément déclencheur, c'était le licenciement de mon père. J'ai oublié d'en parler, mais ça a été le vrai point, en fait. Pourquoi je voulais à tout prix quitter mon cocon, c'est parce que moi, j'ai vu mon père tout donner pour son taf pendant des années, beaucoup de sacrifices, etc. Et puis, il virait tous les mecs de 60 ans à peu près. Donc, ça a été la descente aux enfers totale. Et quand je l'ai vu se faire virer comme une merde, quoi, je me suis dit, mais est-ce que c'est ça que je veux, quoi? Est-ce que je veux donner ma vie pour la réussite des autres, pour finalement pouvoir être éjecté du jour au lendemain? Ça a été un vrai déclic, tu vois. Je te l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, quand je réfléchis, c'est ça. Le vrai déclic, c'est hors de question qu'un jour, je puisse subir la même chose. Parce que ça a contribué à plein de choses négatives après dans ma famille, si tu veux. Donc moi, j'ai vu après la chute. Et d'être acteur aussi de sa vie professionnelle, ben en fait, c'était être proactif pour moi sur son bonheur, tu vois. Et ça a été très compliqué quand je lui ai dit que je partais de chez Winamax, alors que lui, il aurait rêvé garder un CDI. Et il me dit, mais t'as un CDI, t'es bien payé dans une boîte géniale, et toi, tu te casses. Je dis, alors là, franchement, oui, je me casse, je l'assume. Et encore une fois, c'est vous me soutenez, et c'est OK, ou vous me soutenez pas, et on n'en parle pas. Mais ça a été très compliqué à gérer, je pense, pour lui.
Ouais, forcément, parce que bah, t'as envie de protéger tes enfants, mais ouais. Mais en effet, t'as pris la situation et tu l'as regardé avec un prisme que lui ne pouvait pas forcément voir à ce moment-là.
Bien sûr. Ouais. Et puis attends, et puis moi, il y avait pas de truc très concret en face, donc il me dit, mais pour faire quoi?
Ah bah ça, c'est le grand truc. Hein, c'est quoi ton projet?
Voilà, parce que si tu veux, donc désolée pour l'enchaînement, mais c'est vrai que après, donc j'ai cette formation méditation et là, j'ai un déclic en me disant. Donc là, je suis en train de m'associer avec un mec pour refaire du marketing, en fait. Je lui dis, mais c'est pas ça que je veux faire, le marketing, je le sais faire. Et là, j'ai pas signé. Et je me suis dit, OK, je vais monter ma boîte. Et là, ça a été une évidence pour moi que c'était autour de l'alimentation, sujet qui me passionne. Et j'ai créé Endorphine Kitchen, la méthode que j'aurais voulu trouver à l'époque. Quand j'avais des problèmes d'obsession alimentaire, tu vois.
Ouais, justement, du coup, je t'avais coupé tout à l'heure. Tu disais que t'as eu des problèmes alimentaires à partir de 15 ans.
Ouais. Écoute, les problèmes alimentaires, c'est ça a vraiment gâché ma vie pendant 10 ans, tu vois. 10 ans où j'étais obsédée de grossir. Fallait pas mettre de gras, de sucre, de machin. C'était la cata. Et finalement, quand j'ai commencé à ouvrir mon blog de cuisine, bah, c'est ça qui m'a sauvé la vie parce que je cuisinais du beurre, du sucre. Tu vois, ça m'a réappris à vraiment intégrer les aliments qui étaient interdits, à avoir une alimentation un peu plus équilibrée et puis du coup, à me détacher de ces problèmes progressivement.
Et tu sais d'où c'est venu le fait que...
Alors, c'est horrible parce que vraiment, ce serait dégueulasse de dire c'est à cause de ma mère... C'est à cause forcément, j'imagine, d'un ensemble de choses, d'un mal-être à 15 ans, de la comparaison avec ma jumelle qui était super gaulée, première de classe, peut-être aussi. Je me souviens d'une phrase quand même de ma mère qui m'avait dit à 15 ans, je faisais 50 kilos, elle m'avait dit, mais tu sais, à ce rythme-là, si tu prends 1 kilo par an, dans 10 ans, tu pèses 60 kilos et dans 20 ans, t'en pèses 70. Et en fait, ça m'avait vachement marqué, tu vois. Donc, je vais pas dire que c'est à cause de ma mère qui faisait de son mieux et qui donnait des conseils qu'elle estimait bons. Je pense que c'est un ensemble de choses. Un ensemble de choses.
Et aujourd'hui, le poids, du coup, n'est plus un sujet ?
Ah non. Non, non. Heureusement que c'est plus un sujet parce que ce serait dramatique, si tu veux, d'en avoir fait mon métier et d'essayer de régler mon problème à travers mes clients, tu vois. Donc, heureusement que c'est plus un sujet et c'est pour ça que moi, je me sens très légitime de faire ce que je fais aujourd'hui. C'est qu'en fait, je sais ce que c'est que de se voir dans la glace et de se voir grosse, quoi, alors qu'on l'est pas. Donc, si tu veux, je pense que j'ai une empathie et une compréhension pour les autres parce que aussi, je l'ai vécu, tu vois.
Ouais. Ouais, et puis c'est enfin, on dit souvent hein, qu'on veut éviter aux autres ce qui nous a fait souffrir et qu'on est forcément beaucoup plus légitime quand on a vécu cette chose-là pour pouvoir aider ceux qui le traversent.
Exactement. Et puis tu vois, moi, c'est vraiment Endorphine, c'est encore une fois la méthode que j'aurais voulu trouver à l'époque. Je trouve que tout est segmenté en France. On va voir un psy ou un nutritionniste, un coach sportif et tout ça. Mais tu peux pas régler des problèmes alimentaires avec un seul domaine, tu vois. Et je pense que le problème, il est toujours global. Pourquoi est-ce que tu bouffes par compulsion ? C'est que forcément, tu as des problèmes avec tes émotions que tu n'arrives pas à gérer. Donc, si tu te focuses juste sur manger 100 grammes de poisson blanc, mais que tu ne règles pas ton problème, en fait, qui est la cause, tu tournes en rond et en fait, tu t'en sors pas. Donc voilà.
Et quand tu as lancé cette boîte, c'était donc en
2017, fin 2017.
Ouais, 2017.
Attends. Non, 2010, je sais plus.
Sur LinkedIn, c'est 2017, décembre 2017.
Ouais, ouais. Alors et en fait, ça s'est pas fait comme ça. Hein.
Ouais, oui, c'est ce que j'allais dire.
C'est pas un bonjour, j'ai créé une boîte, bonjour, je m'appelle Aurélie, ça va ? Non, pas du tout, ça s'est pas du tout fait comme ça. J'ai tout quitté, je me suis barrée à Bordeaux. Parce qu'encore une fois, quand j'ai eu cette prise de conscience de « je m'associe pas, je monte mon truc », c'est parce que j'ai vraiment répondu à la question « et si la peur n'existait pas, bah, qu'est-ce que je ferais ?» Et là, j'ai commencé à écrire « je partirais de Paris parce que j'aurais pas peur de recommencer une vie à zéro, sans amis, sans rien. Voilà, j'achèterais un appart parce que j'aurais pas peur d'être endettée. Je monterais ma boîte parce que j'aurais pas peur potentiellement de me planter. Je reprendrais des études parce que j'aurais pas peur de repasser des examens. » Et en fait, j'ai fait une liste. Je me suis dit, là, j'ai tout perdu, j'ai plus rien. Autant te dire que allons-y, tu vois. Donc, je suis partie à Bordeaux, j'ai repris des études. Bordeaux, j'avais acheté un petit appartement quelques années avant pour investir. Et puis, c'est près de la mer. Et puis, tu vois, c'était une ville en province que je connaissais parce que j'allais très souvent voir des amis, quelques amis que j'avais là. Donc, puis surtout quand je suis arrivée à Bordeaux, j'ai clairement décidé que ma vie se passerait bien et que tout irait, tu vois. Vraiment, mais je pense que toutes les cellules de mon corps étaient imprégnées de cette idée que tout va bien se passer. Et tout s'est bien passé, tu vois. Je suis arrivée à Bordeaux, je suis rentrée dans un incubateur parce que j'ai gagné un concours par hasard. Enfin, tout s'est hyper bien enchaîné.
L'alignement des planètes.
Ouais, c'était super. Après, je suis rentrée chez Bouge ta boîte, un groupe d'entrepreneurs femmes. Top, j'ai rencontré des nanas super et finalement beaucoup plus simple de tisser son réseau à Bordeaux qu'à Paris. Alors je vais te dire, c'est un peu débile ce que je dis parce qu'à Paris j'ai pas essayé de le tisser, mais en tout cas à Bordeaux je trouve que la vie est simple pour ça, que tu peux rencontrer les gens facilement. Moi je trouve ça absolument génial, moi je suis hyper heureuse d'avoir fait ce changement de vie, même si c'était hyper difficile au début, hein. Je veux pas faire
C'était quoi du coup ? T'étais dans quel mood à ce moment-là ?
Rien n'est impossible. Vraiment, tu vois. J'avais un jour sur deux, je me remettais en question, évidemment. Un jour sur deux, mais qu'est-ce que tu proposes ? Mais en fait, c'est pas comme si tu veux devenir ostéopathe ou c'est un métier qui est connu, on n'en parle pas, on ne remet pas en question tes compétences, t'as fait tes études. Là, c'était quand même, tu parles chinois pour 90% des gens.
Si c'était 99.
Ah ouais, si c'était 99. L'alimentation intuitive, bah, c'est connu aux États-Unis, au Canada, mais en France, on a toujours 10 ans de retard. C'est vrai que j'ai pas pris le chemin facile. Mais en gros, c'est le chemin que je voulais prendre. Donc, je me suis dit, si j'y crois à fond, j'arriverai à faire comprendre aux gens qu'en fait, c'est quelque chose qui est fiable, viable et qui marche. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, je suis hyper contente, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a des matins où je me dis, mais je suis folle. Parce que oui, pourquoi j'avais 2 ans de rupture conventionnelle, donc j'avais 2 ans de chômage, tu vois. Et qu'à un moment, ça allait s'arrêter. Et qu'en gros, ma mission, c'était pouvoir vivre de mon taf le jour où mon chômage s'arrêtait. Ce qui était quand même tendu. Et j'avais un emprunt sur le dos. Bon. C'est, ma sœur m'a quand même dit, t'es complètement folle, tu ne peux pas partir, t'as un emprunt sur le dos, machin. Et je lui dis, encore une fois, je dis, mais ça, ce sont tes peurs. Même si au fond de moi, je vais pas te dire que j'avais pas peur et que je dormais bien la nuit. C'est pas vrai. Après, c'est bien pour ça que tout le monde le fait pas. C'était si simple.
Ouais.
Tout le monde le ferait.
Et au bout de combien de temps t'as pu te payer ?
Eh ben, écoute, l'objectif que je me suis fixé, c'était parfaitement atteint. À la fin de mon chômage, j'ai pu me payer. Et en vif, tu vois. Et je voulais pas, tu vois, j'avais, c'était il y a un an, pile. Il y a un an et demi. Et en fait, je me suis dit, catastrophe, si je demandais, de l'argent à mes parents, pour moi, ça aurait été un échec total, tu vois. Total. C'était la fin du monde pour moi, si je devais, dire, bah, c'était un aveu d'échec, tu vois.
Voilà, ouais. C'est la fierté qui.
Ouais, je suis contente, ouais.
Ça, d'ailleurs, ça me fait penser à France, qui, bah, que tu connais, qui vit à Bordeaux aussi. Et France, elle disait que quand elle s'est lancée en tant que kinésiologue, jamais elle aurait imaginé demander de la thune à ses parents. Et, ouais. Et puis, maintenant qu'elle est reconnue, qu'elle commence à gagner des sous, et que ses parents comprennent vraiment ce qu'elle fait. Alors aujourd'hui, elle en a pas besoin parce qu'elle a encore le chômage, mais elle dit si à la fin de son chômage, elle a besoin un peu d'aide. Et, elle me disait bah, que elle se sentirait légitime cette fois-ci, tu vois, d'aller voir ses parents.
Bah, forcément, t'évolues différemment. Et aujourd'hui, tu vois, si c'était pas le cas, elle a raison, France, là-dessus. Je me dirais pas, bah je vais fermer la boîte et reprendre un CDI bien comme il faut, bien gentiment. Alors qu'il me faut 6 mois de plus pour me payer. Et je suis complètement OK avec France là-dessus, clairement.
Et donc là, donc, ça fait 3 ans donc, que tu as ta boîte, donc ça fait un an que tu arrives à vivre de ton projet, donc c'est absolument génial. Tu as rencontré un nouveau chéri ?
Ouais, ça, c'était dans les plans aussi de Bordeaux. Je me suis dit, autant changer de vie à 100%. Donc là, on s'est mariés cet été. Et lui, il me soutient à fond, donc ça, c'est cool. Il m'a jamais prise pour une folle, même s'il comprenait, je pense, absolument rien de ce que je faisais au début. Et je pense qu'en fait, je m'exprimais mal, tu vois, que je n'assumais pas forcément, et peut-être que je le disais avec moins de conviction, avec des mots moins bien choisis, tu vois. Ouais, heureusement qu'il est là, et heureusement qu'il a été, et qu'il est, tu vois, un soutien, parce qu'il y a des jours... au début, je me disais, mais putain, mais je sais pas si je vais y arriver, tu vois.
Et puis peut-être que tu avais un peu un syndrome de l'imposteur aussi, sur le fait de mal formuler les choses.
Non. Alors, oui et non. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Tu vois, ce qui était compliqué pour moi, c'était encore une fois d'avoir un nouveau métier. Mais pour les autres, tu vois. C'était hyper compliqué, ça pouvait un peu faire farfelu. Oui, alors c'est une méthode pour retrouver une relation saine avec la nourriture. Alors, il y a de la méditation, il y a de l'alimentation intuitive. Alors, déjà, quoi ? Enfin, si tu veux, c'était déjà convaincre les autres. C'était assez compliqué. Et après, problème de légitimité, oui et non. Parce que encore une fois, moi, tout mon cursus de PNL... et mes diplômes que j'ai eus m'ont clairement conforté dans l'idée qu'en fait ce que je disais c'est censé, c'est pas farfelu et qu'heureusement en fait que ce que je dis est censé. Après, comme dans tout nouveau métier, oui, bah au début, oui, ça fait que 3 mois, que 6 mois, qu'un an et demi, que 2 ans que tu fais ça, et au début c'est un peu difficile, tu vois, de l'assumer. Comme si ta performance et tes compétences étaient liées à ton nombre d'années d'expérience, tu vois. Mm.
c'est compliqué quand même à assumer ça.
Ouais, je comprends.
Forcément, qu'un jour t'as eu un premier client, sauf que tu vas pas lui dire bonjour, vous êtes mon premier client. Tu peux pas dire ça. Sauf qu'un jour il y a eu un premier client, tu vois. C'est pas simple, hein.
Tu peux pas le dire. C'est le premier.
J'ai choisi de pas le faire parce que j'avais l'impression que je me tirais une balle dans le pied et que du coup mon discours allait être divisé par deux en termes d'un, tu vois, de poids. Ça allait être peut-être mal interprété que ah bah oui bah là je suis sa première cliente elle s'entraîne sur moi, mais moi je sais qu'en tout cas moi ça m'emmerderait, hein. Je vois un coach demain qui me dit bah vous êtes ma première cliente, peut-être que le mec est génial, en revanche peut-être que je remettrai en question ce qu'il dit parce que je suis sa première, donc je me suis dit je vais pas me saboter, tu vois.
Et tu vois, on en parlait justement avec France, qui disait que au début elle avait hésité, tu vois, à faire le podcast et puis à communiquer dessus, surtout parce que
qu'elle
était nouvelle, que c'était nouveau et tout, et au final alors potentiellement qu'il y a des gens que ça va bloquer, mais elle disait que ça avait attiré aussi beaucoup de personnes. Parce que ça montrait que elle que savait ce que c'était que la vraie vie de leur vie à eux.
Boulot, ouais.
Voilà, c'est ça. Enfin, je dis pas que les kinésiologues n'ont pas une vraie vie, hein, mais en tout cas plus de projection et de liens par rapport à leur vie à eux qui vivent en fait.
Ouais, tout à fait.
Surtout qu'il y a pas mal de personnes qui sont en changement, donc.
Et tu vois, France, pour l'avoir vue personnellement, ce qui est génial, c'est que. Tu te dis pas elle a quelques mois d'expérience, et c'est ça, elle a la posture, tu vois, et de la nana qui assume son changement de vie et très à l'aise, et moi je l'admire à fond pour ça, tu vois, vraiment.
Ouais, elle a sa place, elle a trouvé son truc,
et tu vois, je pense que vraiment dans les changements de vie il y a beaucoup de choses qui passent par la posture. Tu peux changer de vie, tu peux faire toutes les formations du monde, etc. Si tu l'assumes pas, tu renvoies en fait que t'es pas sûr de toi. Et en fait, c'est ça qui compte vachement. Je pense que la question de posture, c'est quand même quelque chose qui est hyper important.
Ouais. Si tu vas voir ton entourage, j'ai un projet, mais je sais pas trop si ça va marcher. Et aussi, tu arrives, j'ai un projet, je suis au taquet, ça va être génial et tout. Forcément,
tu donnes envie,
les gens. C'est ça. Tu vois, d'ailleurs, moi, c'est ce que je disais à l'époque quand je faisais du marketing. C'est que si tu expliques que tu es trois dans une cave, ou si tu expliques que tu es une entreprise, une start-up, alors tu es toujours trois, hein, mais c'est absolument exceptionnel.
Ça change tout.
Mais ouais, souvent, tu vois, on avait des concurrents qui étaient des concurrents américains, où tout est amazing et compagnie. Et nous, en tant que Français, on a toujours un côté un peu terre à terre. Oui, mais ça, on peut pas dire ça, c'est pas vrai, machin et tout.
Ouais, bien sûr.
Mais en fait, je dis, mais c'est la posture. Si dans votre tête, vous vous dites qu'on est moins bien qu'eux, parce que sur le papier, le produit, il est mieux. Ouais. C'est juste après une question de posture. Non, mais tu vas transpirer
le moins bien qu'eux. Exactement.
Exactement. Ouais. Et donc, ouais. je faisais du coaching, entre guillemets, aux commerciaux en disant, mais même aux marketeurs, en disant, non, mais attendez, mettez-vous dans la posture que notre produit est le meilleur au monde, parce que c'est vrai. Bien en sûr. Plus, je suis pas en train de faire de vendre mon truc. J'en suis intimement convaincue. Et voilà la preuve. Mais, je veux dire, tu vois, pour moi, le meilleur exemple, c'est Salesforce. Salesforce, ouais, qui est le leader mondial du CRM, et maintenant ils font beaucoup plus de choses. Mais Salesforce, c'est un cauchemar d'utilisation, ce truc. Mais c'est vraiment un cauchemar. Mais ils ont su faire en sorte, d'avoir tout ce qu'il faut autour pour faire rêver. En fait, ils vendent plus qu'un produit, ils vendent un rêve, l'appartenance à un truc, quoi.
Bien sûr. Ouais, tout à fait.
Et toi, du coup, par rapport à cette posture, comment tu es, toi?
Bon, moi, je me sens très alignée dans ma nouvelle vie, tu vois. Je me lève le matin, je suis sereine et heureuse. Mais vraiment, c'est un luxe. Je me rends compte du luxe, en fait, que c'est. Vraiment. Il n'y a pas le dimanche soir, j'ai des amis au téléphone, c'est dimanche soir, oh là là, demain, c'est lundi. Oh, mais plus jamais je dis cette phrase, tu vois. Alors que j'étais pas malheureuse chez Winamax, mais il m'arrivait de dire ça aussi. T'as pas envie, en fait. Moi, le lundi, je suis au taquet à fond. Mais il y a des jours, Charlotte, où j'ai pas envie de bosser parce que fatiguée, machin. C'est pas le monde merveilleux des entrepreneurs. C'est juste que la globalité du temps, la majorité du temps, t'as quand même choisi ta vie
Et tu choisis aussi ton emploi du temps. Voilà. Moi, clairement, j'ai décidé de jamais bosser avant 9h30 le matin. Je suis incapable de bosser avant 9h30 le matin. J'ai envie de lire ma mail, de prendre un café, etc. Et ça, c'est un luxe, tu vois. Si j'ai envie de bosser le samedi parce qu'un vendredi après-midi, j'ai un rendez-vous de médecin, eh ben, je peux le faire. C'est une liberté de dingue. Évidemment, tout le confort que tu as dans une boîte, tu y renonces. Et créer sa boîte, c'est un renoncement. Et ce mot, il doit être énorme, en gras, souligné 10 fois. Tu renonces à ton train de vie d'avant. Il faut pas se leurrer. Il va falloir quand même un petit peu de temps avant que je retrouve mon train de vie d'avant. Les vacances, c'est jamais vraiment des vacances. Tu vois ? Après, tu sais ce que t'as, tu sais ce que t'as plus et tu sais pourquoi t'as fait ces choix. Mais tu vois, c'est marrant, j'en parle beaucoup avec ma sœur. Elle me dit « je serais incapable de faire ce que tu fais ». Je lui dis « je serais incapable de faire ce que tu fais ». Moi, une vie où en fait, on se met entre parenthèses la semaine pour pouvoir partir 4 fois par an en voyage, en vacances et tout ça, pour avoir des week-ends où c'est le week-end et il n'y a pas un mot de boulot. Je comprends que la majorité des gens soient attirés par ce modèle. Hein. Je ne remets pas ça en question. En revanche, moi, c'est pas possible.
Voilà. Ouais, le principal, c'est de savoir. Enfin, tout ne convient pas à tout le monde et la question, c'est qu'est-ce qui me convient à moi pour de vrai et se mettre en mouvement parce que comme et tu après, disais, ton papa, oui, il avait la sécurité de l'emploi, mais sauf qu'en fait, à 60 ans, c'était fini, quoi.
Bien sûr. Et puis c'est aussi, tu vois, on dit tout le temps vivre. J'aime pas cette phrase et en même temps elle est très juste. Mais vivre ici et maintenant, c'est quand même important. Tu vois, je pense que le décès de ma pote, ça m'a fait aussi prendre conscience que on peut faire des projets. Allez, je gagne plein de fric aujourd'hui pour demain faire ça, ça, ça et ça. Mais en fait, tout peut s'arrêter demain aussi. Donc ça a contribué clairement à me décider, à me dire, mais est-ce que t'as pas envie finalement de contribuer à ton bonheur chaque jour plutôt que de faire des plans sur la comète qui peut-être n'arriveront jamais parce que regarde le Covid cette année, tu vois.
C'est clair.
Qui avait prévu ça? Personne. Donc c'est sûr que il faut accepter de renoncer à beaucoup de, en un premier temps, à beaucoup de confort. Tu vois, faut quand même le dire.
Bah surtout qu'en plus c'est pas comme si t'étais en couple à l'époque ou tu ne dépendais que de toi, quoi.
Ouais, là tu vois, en fait je me dis pas il faut que ça marche, je suis intimement convaincue qu'en fait c'est lancé et ça va marcher encore plus, tu vois, enfin c'est pas de la prétention, mais j'en suis intimement convaincue parce que je sais que ça répond à un vrai besoin des gens aujourd'hui. Dire combien il y a de personnes qui ont des kilos qui ne les rendent pas vraiment heureux, tu vois. Ça touche un max de personnes, ça.
Ouais, ça, c'est sûr. Ouais.
Donc,
C'est quoi pour toi la réussite?
La réussite, c'est un équilibre de vie, tu vois, entre ta vie pro et ta vie perso. Demain, j'ai des enfants. Ma réussite, ce sera de pouvoir aller chercher à l'école 2-3 jours par semaine, tu vois. Voilà, c'est vraiment un équilibre de vie où t'as pas l'impression de passer à côté d'une vie et de l'autre. Premier point. Et deuxième point, c'est faire quelque chose où tu te dis, mais tu vois, on parle du sentiment d'utilité dans beaucoup de reconversions professionnelles, mais c'est vrai, je suis désolée. Moi, je me dis, je contribue quelque part dans la vie des gens à améliorer un aspect de leur vie, tu vois, c'est hyper valorisant. Ouais, c'est hyper valorisant. Et ça te pousse, ça te porte. Moi, quand je reçois des textos, tu vois, j'ai reçu un texto à Noël d'une cliente qui m'a dit que je devrais être remboursée par la sécurité sociale, nanana. Mais en fait, ça, à ce moment-là, tu m'aurais filé un chèque de 300 000 balles. J'aurais préféré avoir le texto que ce chèque, tu vois. Parce que t'es nourrie de ça, tu vois. T'es nourrie des résultats de tes clients, t'es nourrie des changements et des progressions. Et c'est ça qui est absolument génial, tu vois. Mes objectifs en début d'année, c'est moi qui me les fixe, c'est pas quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que d'être vraiment acteur à 500% de sa vie, ça, c'est la réussite, je trouve, pour moi.
Et tu disais au début de l'épisode qu'un de tes rêves, ça aurait été de faire les cours Florent, de faire du théâtre. Donc là, tu disais que tu allais te mettre à l'impro pour pouvoir du coup avoir cette partie-là dans ta vie aussi.
Ouais, clairement. Je pense que, je suis déjà inscrite, mais dès que ça réouvre, j'irai, parce que tu vois, l'équilibre aussi d'une vie, c'est pas que bosser ou que s'occuper de sa famille. Finalement, quand t'es super équilibré dans ta tête, c'est que ta part de folie qui peut s'exprimer aussi. Et moi, j'en ai une bonne part de folie. Donc elle dort depuis trop longtemps.
Qu'est-ce que tu penses que la petite Aurélie de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui?
Bah finalement, tu vois, je repense à ces petits coups. À 6 ans, c'est énorme hein, d'être virée du tennis ou de la danse classique. C'est de me dire bah, que ma revanche, je l'ai eue, quoi. De me dire que bah, finalement, tes coups dans la figure, ça te permet vachement d'avancer parce que c'est peut-être ça qui m'a donné aussi ce tempérament de challenge, de me battre, d'avoir besoin, tu vois, d'être challengée en permanence.
Ouais, peut-être, si tu me permets, de te battre pour les bonnes choses. Parce qu'en soi, le tennis, c'est, enfin, si tu avais vraiment voulu, on était dans le même club de tennis. Et en gros, moi aussi, je me suis fait virer parce que j'avais cours le mercredi après-midi à 18h, que c'était pas couvert, qu'il pleuvait. Et donc, dès que je pouvais essayer de pas y aller, j'y allais pas. Et puis, en plus, ça me saoulait. Mais, je pense que bon, à ce niveau-là, c'est pas parce que t'es pas Amélie Mauresmo qu'on te vire. C'est juste parce que tu corresponds pas à leurs critères.
Mais tu vois, c'est ça. C'est une question de rentrer dans les cases. T'as raison de dire ça. C'est une question. Tu rentres pas dans les cases. Out. Tu vois, c'est ça. Le lien avec mon père. C'est le lien avec le tennis. C'est le lien avec la danse. T'es pas assez nain. Tu dégages. Et en fait, c'est moi qui vais vous donner le cadre. Et c'est comme ça que ça va se passer. Moi, c'est ça que ça m'apprend aujourd'hui.
Tu dis, c'est quand même fou, quand même de. Enfin, de faire ça à un enfant de 6 ans, enfin, c'est...
Pardon.
Tu t'en étouffes.
Ouais. Non, mais après, peut-être qu'ils avaient des critères et que effectivement, je ne devais pas rentrer dans les critères. Peut-être que j'étais très mauvaise. Enfin, il y a un moment, on ne peut pas être...
Non, mais je crois que le sujet, de mémoire, le sujet, c'était que, en fait, il y avait tellement de demandes que du coup, ils disaient, en gros,
il faut... Les bons, quoi.
C'est ça, comme au lycée où il y avait la moitié de la promo de 3e qui était virée parce que... Ça n'allait pas être bon pour les stats du bac. Hein.
Ah je ne vais pas rentrer dans les bonnes stats, moi, hein, ça c'est sûr. Mais je suis contente d'avoir cette conversation de tennis parce que j'en ai jamais parlé à personne. Charlotte, je suis très contente d'avoir fait
j'en suis ravie. Cette
école avec toi.
On a vécu la même chose.
Clairement.
On va faire un podcast. Je me suis fait virer à 6 ans de mon club de tennis.
C'est ça. Gros traumatisme.
Bah ouais, non, mais enfin, on en rigole, mais ça fait partie des blessures de l'enfance.
Bah, c'est le premier, tu vois, dont je me souviens.
On en a parlé un peu tout à l'heure, mais bon, je vais quand même te reposer la question. Qui dit choix, dit renoncement. Quels sont, du coup, tes renoncements à toi?
Financier, numéro 1. Si tu veux, quand je partais, moi, j'avais Winamax, plus mes tournages. Donc... c'était quand même une vie très, très facile. Renoncement financier, c'est sûr.
T'as arrêté, du coup, avec les tournages en parallèle?
Non, j'ai continué après un petit peu. Et t'as le deuxième renoncement, c'est finalement te faire d'être porté par un boss, tu vois. Quelque part, c'est chiant, c'est pénible, je dois, mais quelque part, c'est un luxe aussi. Ta motivation de bosser, elle dépend pas de toi. Elle dépend que t'as pas le choix. Et finalement, pas avoir le choix, de temps en temps, c'est assez pratique. Et se mettre à bosser, se lever le matin, garder des rythmes de ton réveil, t'as 7h30, ce qui est pas hyper tôt, mais déjà pour moi, c'est très tôt, 7h30. De pas te laisser le choix et d'être ton propre boss, ça demande une exigence, tu vois, qui est pas forcément facile tous les jours. Donc, tu quittes aussi un cocon... avec des vacances payées, tu quittes. C'est très compliqué de prendre des vacances les premières années aussi. Tu te dis, mais attends, mais là, c'est pas le moment, il faut que je bosse. Et puis tu peux te faire 4 ans sans prendre de vacances. Et heureusement qu'on m'a bien conseillé en me disant, mais en fait, tu seras très très mauvaise si tu te reposes jamais. Voilà. Mais c'est vrai que tu quittes quand même la facilité, un confort financier et une sérénité aussi. Arrêter de croire qu'on dort la nuit et qu'on n'y pense pas matin, midi et soir. Enfin, je veux dire, tu bouffes endorphine, tu dors endorphine, tu cauchemars d'endorphine et puis ça recommence, hein, c'est vrai.
Ton mari, parce que maintenant, du coup, tu t'es mariée cet été, qu'est-ce qu'il fait, lui?
Il est avocat.
D'accord. Donc, il connaît. Mais
il se reconvertit aussi parce que Il y en avait ras-le-bol de ce métier. Et pendant le confinement, clairement, il a pris la décision d'arrêter. D'accord. Et moi, j'ai dit que je voulais pas vivre avec un mec qui subissait sa vie pro. Hors de question. Et que ce serait pas facile dans un premier temps. Mais en fait, encore une fois, on n'a qu'une vie. Et moi, je veux pas être à côté de quelqu'un qui est à l'opposé de ma vision. C'est-à-dire, juste pour gagner du fric, alors on se lève le matin. Hors de question.
Et c'est ce qu'il veut faire ?
Bah, ça restera, si tu veux, avec ses compétences de droit, mais en tout cas dans un milieu complètement différent. Et c'est sûr que cette décision, je ne sais pas si... Je ne peux pas parler à sa place. Je ne sais pas s'il l'aurait prise si on n'était pas ensemble, tu vois.
Ouais, si tu n'avais pas été moteur de ta vie.
En tout cas, on a eu cette conversation de la vie, ce n'est pas que le fric.
C'est fou, tu vois, de voir, en effet, bah, clairement, hein, quand tu as une personne dans ton entourage qui prend sa vie en main, forcément, ça fait réfléchir d'autres personnes. Et c'est chouette, parce que tu te dis, bah, finalement, c'est un éveil des consciences de se dire qu'on a le droit de se poser la question, de se dire, je suis pas heureux au moment où, enfin, je suis pas heureux et satisfait de la journée que j'ai passée, et qu'en fait, celle de demain, ça va être la même, et celle d'après-demain aussi.
C'est terrible,
ouais. Et que, ouais, qu'à n'importe quel âge, dans n'importe quelle situation, tu vois, j'ai échangé avec une jeune femme, parce qu'elle a, je pense qu'elle doit avoir 20 ans, qui me disait que, là, elle vient de commencer une école de commerce et que, en fait, qu'elle se rend compte que non, ça le fait pas du tout, ça la fait chier, elle est pas à sa place et tout. Et elle me dit, c'est hyper difficile, mais je lui dis, tu sais, finalement, à chaque âge, en fait, on va se dire, bah voilà, mais j'ai un gros salaire, donc je peux pas quitter mon job. En fait, des excuses. Et on s'en trouvera, en fait, à chaque âge. Ouais, ouais. Y a toujours un truc.
Après, il y aura l'emprunt. Après, il y aura les enfants. Après, il y aura autre chose. Il y aura toujours une bonne raison, ça, c'est sûr.
C'est quoi les plus grandes peurs, du coup, que tu as dû affronter et comment tu les as affrontées ?
Première peur, financière. Et en fait, je me suis rendu compte que encore une fois, c'est une question de choix. Bah oui, tu vas pas t'acheter de nouvelles fringues pendant un certain temps. Tu vas pas aller au resto et tu vas pas partir en voyage et tu vas limiter les plaisirs. Mais finalement, ces plaisirs-là, tu les retrouves dans ta vie concrète du quotidien en bossant pour un truc qui t'anime. Tu vois, donc l'équilibre, il se fait ici. Donc au début, j'avais cette peur financière de comment vivre avec seulement nanana euros. Tu vois. Et en fait, c'est très naturel. Tu te dis juste que tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais pourquoi tu t'achètes pas une nouvelle robe Cézanne tous les mois pour te féliciter. Maintenant, tu vois, quand je dois me féliciter d'un nouveau point pour endorphine, eh ben, je vais justement dans mon magasin préféré que je trouve hors de prix, Cézanne, et je vais m'offrir une robe, une jupe. Et là, tu vois, ça a de la valeur parce que je sais que je m'en suis privée pendant quelques temps. Et ouais, voilà, tu renonces financièrement à beaucoup de choses. Ça, c'est une première peur. Deuxième peur, est-ce que je vais être capable de repasser des examens, de me replonger dans les études? Est-ce que ça va pas me gonfler, franchement, tu vois? Parce que c'est très marrant quand tu passes des examens à 20 ans, à 30 ans, c'est autre chose. Enfin, je trouve que c'est autre chose. Hein. Tu as une capacité de concentration qui est beaucoup moins importante. Et heureusement que j'avais passé mon CAP pâtisserie, tu vois, chez Winamax en candidat libre, et je bossais quand même vachement le soir toute seule mes examens. Ça m'a ouvert un peu plus mes neurones, et donc du coup ça a pas été si compliqué de me remettre à bosser.
Pourquoi d'ailleurs j'avais peur de passer le CAP ?
Je l'ai passé en 2016 ou 2017, je sais plus. En candidat libre, tu vois, je pense que j'étais déjà dans une démarche sans savoir en 2016 de je veux me faire un peu violence, puis c'était un peu le challenge parce que c'était candidat libre, donc tu bosses toute seule et puis tu te pointes le jour de l'examen, tu vois. Mmh. La boucle a été bouclée parce que j'ai passé mon CAP à l'école Ferrandi. J'ai trouvé que le signe que la vie m'envoyait était quand même très drôle, tu vois.
Ouais, c'est clair. Une belle synchronicité.
Ouais, c'est marrant.
Mais tu disais, ok, je vais passer mon CAP pâtisserie. C'était quoi l'objectif derrière, entre guillemets, s'il y en avait un d'ailleurs?
L'objectif, c'était qu'en fait, comme j'ai appris la pâtisserie toute seule avec des vidéos ou des bouquins, je faisais ce que j'aimais. Et je me suis dit, bah, la pâtisserie, pour être bonne en pâtisserie, c'est pouvoir créer, inventer. Et pour ça, il faut avoir dans sa tête une dose de base hyper solide. Et donc, du coup, passer ce CAP, c'était m'obliger à aller travailler des croissants, des pains au chocolat, la viennoiserie qui me saoulait au départ. Et aller dans tous les registres, tu vois.
Donc, c'était encore, est-ce que je suis capable de moi? Je crois que c'est mon grand truc dans ma vie. C'est capable ou pas capable, tu vois?
Cap ou pas cap?
Cap ou pas cap? Et là, tu vois, le cap ou pas cap de 2021, parce que je m'en fixe un par an, c'est cap pas cap de dupliquer la méthode Endorphine en entreprise, tu vois. Donc ça, c'est le projet 2021. Donc, tu vois, j'ai repassé des trucs, des examens de coach professionnel justement pour pouvoir
être
faire ça en entreprise aussi, parce que ça m'éclate, tu vois, c'est nouveau challenge, nouveau public, nouvelle pression, voilà.
Ouais. De quoi t'es la plus fière aujourd'hui?
D'avoir oser sortir d'un confort, si tu veux. C'est difficile quand tu es au chaud d'aller dans la rue, toute nue, dans le froid. Je dis ça, mais c'est un exemple. C'est vraiment, t'es à poil quand tu montes ta boîte. T'as rien, tu vois. T'as pas de vêtements de protection, tu vois. Et ouais, je suis fière d'avoir cru en moi, tu vois. Parce qu'il y en a plein qui n'ont pas cru en moi et je leur en veux pas, hein, je les comprends. Mais moi, je suis très fière d'avoir cru en moi, jusqu'au bout.
Et il y a des gens, ces personnes-là qui ne croyaient pas en toi, c'est des personnes que tu continues du coup à voir?
Non. J'ai fait un bon tri aussi en changeant ma vie professionnelle, tu vois. Finalement, tu as quand même pas mal de personnes superficielles où j'ai ouvert les yeux, puis en fait, à faire de la méditation, tu as quand même un degré de conscience qui est plus important et tu te rends compte de beaucoup de choses. Tu vois, tu vas voir des copains, tu ressors de là, tu n'as pas rigolé une seule fois dans la soirée, est-ce que tu as envie de continuer à les voir? Bah non, en fait, ça sert à quoi de prolonger le truc? C'est compliqué aussi, parce que c'est accepter de déplaire, accepter tout ça. Hein, c'est pas simple.
C'est accepter d'être soi.
Ouais. Mm. Mais accepter d'être soi, c'est accepter de pas plaire à tout le monde, tu vois.
Bien sûr.
C'est très compliqué pour beaucoup de gens. Moi, j'ai eu beaucoup ce problème-là. Il fallait être aimé de tout le monde, machin et tout. Mais être soi, être aligné, c'est dire, bah ok, laissons les gens parler, laissons les gens me critiquer, laissons les gens dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent. Je m'en fous, ça m'atteint pas. Plus.
Et est-ce que tu es d'accord avec le fait que quand on est soi, en fait, potentiellement avant, tu n'étais pas vraiment toi-même et donc finalement, tu as changé aussi et donc des choses que tu, potentiellement, tu étais un peu comme ces personnes-là avant et que un jour, tu as une prise, enfin un jour, hop, en un claquement de doigts, enfin non, pas justement pas ça, enfin vu tout ce que t'as, le travail que tu as fait sur toi-même, tu t'es éveillé entre guillemets à toi et donc… tu t'es vraiment, enfin voilà, t'es toi, mais
t'as moins de frustration finalement quand tu fais ce que t'aimes et que tu mets tes peurs de côté et tout. T'es plus dans une vie frustrée. Ah, si je pouvais, je ferais ça, machin. Et quand t'as plus de frustration, en fait, c'est là où t'es vraiment heureuse, tu vois. Donc, oui, forcément, qu'il y a une partie de moi qui était pas du tout heureuse et épanouie parce que je devais rester dans le cadre. Donc, en restant dans le cadre, quand ça ne te convient plus, forcément que t'es pas bien. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui qui vont avoir peur de se lancer parce qu'ils n'ont pas ce degré de conscience que finalement, en étant eux-mêmes et en faisant un projet qui leur parle et qui les anime, c'est ça qui va contribuer à leur bien-être. Et comme par hasard, ils vont dégager aussi même inconsciemment, en fait, tout ce bien-être. Et là, les planètes vont s'aligner et ça va bien se passer, tu vois. Mais ça, c'est sûr que c'est très facile à dire, mais c'est plus simple de l'expérimenter pour le dire. C'est très facile ce que je dis aujourd'hui. Hein. Est-ce que j'aurais eu ce discours-là il y a quelques années, j'en sais rien. Sûrement pas. Ouais.
Et le fait, justement, du coup, de faire du tri dans les amis, parce que c'est un truc j'en ai pas assez parlé encore dans le podcast, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait un gros tri, un tri naturel qui s'est fait. Tu vois, typiquement, Pedro Correa, il a quitté sa femme. Il y a beaucoup de ses amis qui ne voient plus. Parce qu'en fait, il dit, le jour où je me suis réveillée et que j'ai découvert vraiment qui j'étais, ça correspondait plus aux valeurs de toutes ces personnes-là, en fait.
C'est ce que tu dis, le mot valeur, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, je pense avoir du mal avec les personnes qui vont être dans une superficialité importante. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Ou en mode carte postale, ma vie est géniale, ma vie est parfaite, je ne montre aucune vague. Si tu veux, j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec ça et je m'en éloigne. Et je sais que ça peut faire de la peine, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, je suis plus du tout à l'aise avec ces personnes-là. J'avoue aussi avoir un peu moins de temps, donc tu fais le tri aussi. Le confinement, ça m'a fait prendre conscience que bah, qui t'as vraiment envie de voir après des mois d'enfermement, qui t'as vraiment envie de voir. Moi, quand je rentre à Paris, je me dis qui j'ai vraiment envie de voir, tu vois.
Ouais, bah c'est clair, finalement, quand tu changes de ville, quand tu changes de ville, ça te force à réfléchir
mais
à qui t'as vraiment envie de voir.
C'est aussi accepter que il y a un âge où on avait besoin de définir sa valeur par le nombre d'amis que t'avais aussi, peut-être, tu vois, et qu'aujourd'hui, bah je pense que je sais un petit peu plus ma valeur et que j'ai pas besoin de me rassurer à travers le nombre de dîners que je peux avoir en semaine. Tu vois, finalement, les amis qu'on a aussi sont des amis qui nous ressemblent. C'est vrai que je me suis fait pas mal de nouveaux copains à Bordeaux et je pense qu'ils me ressemblent plus dans l'ouverture d'esprit ou dans la façon de bosser ou dans l'ouverture aussi. Tu vois, je pense que je me suis rendu compte qu'à Bordeaux, j'avais des amis qui étaient pas tous pareils. Alors qu'à Paris, j'avais des amis qui étaient tous pareils et que j'aime. Hein. Mais aujourd'hui, j'ai des amis à Bordeaux de tous les horizons, tu vois, et c'est ça qui est riche.
C'est clair.
Ça qui rend heureux, en fait, tu vois, d'avoir des points de vue différents. Moi, j'adore ne pas être d'accord avec quelqu'un, tu vois. Ça en fait pas en face une mauvaise personne et moi une bonne personne.
Si tu croises quelqu'un dans la rue qui te dit, enfin, qui connaît pas ton histoire et qui voit que, voilà, t'as monté sa boîte, ça marche bien, t'as été demi-finaliste au meilleur pâtissier, qui te dit, mais en fait, Aurélie, t'en es là uniquement grâce à de la chance, qu'est-ce que t'as envie de lui répondre?
Alors, absolument pas. Mais alors, grâce à la chance, non, ce mot chance, j'assume parfaitement de pas dire que c'est à cause de la chance parce que j'en ai chié. J'ai bossé comme une malade. J'ai fait 25 000 allers-retours à Paris pour mes formations parce que je voulais la meilleure école. Donc, je suis allée à Paris en habitant à Bordeaux. Non, c'est pas de la chance, c'est du boulot. Non, c'est du boulot à 150%. La chance, tu te la donnes. Tu vois, la différence, c'est ça. Elle arrive pas, c'est tu te la donnes.
Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui?
Ouais, c'est un truc que je donne beaucoup à mes clients aujourd'hui à faire comme exercice parce que moi, ça a changé ma vie et j'aurais aimé le faire avant, j'aurais aimé qu'on me le dise avant. C'est vraiment, si la peur n'existait pas, qu'est-ce que je ferais? Je trouve qu'on se lâche en répondant en toute honnêteté à cette question et qu'on se rend compte en fait de la dinguerie potentiellement dans laquelle on vit à cause des peurs qui peut-être n'arriveront jamais, tu vois. Voilà, c'est ce que j'aurais vraiment aimé qu'on me... Parce que l'idée, c'est pas qu'on me dise « Ah, monte ta boîte, machin ». Non, c'est finalement, débarrasse-toi de tes peurs et tu te rapprocheras finalement de la vraie personne que tu es censée être dans cette vie.
Ouais, surtout que les peurs, très souvent, il y a une partie qui est héritée des autres.
Clairement. Mmh. Évidemment, sur ton éducation, sur... le monde dans lequel tu évolues,
ton entourage sûr, proche.
Hein. Si tu as des parents entrepreneurs, etc., la peur d'entreprendre, je pense qu'elle est moins, elle est moins importante que chez d'autres personnes. C'est clair.
Et encore que, parce que finalement,
T'as raison, tu peux te dire, découvrir les coulisses et tu peux te dire, oh là, mon Dieu.
C'est ça.
T'as raison, c'est vrai que c'est à double tranchant. C'est vrai.
Ouais. C'est des peurs différentes, mais bon. C'est quoi tes prochains défis?
Bah, prochain défi, je te dis, c'est en entreprise. Ça, c'est vraiment le truc qui m'éclate, vraiment. Et je pense que j'aurais toujours besoin, effectivement, de ce truc. Ok, et cette année, c'est quoi le truc? Parce que sinon, je vais m'endormir et puis c'est pas ça qui m'amuse, tu vois.
Ouais, t'aimes apprendre, te challenger.
Ouais.
À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte?
Voilà, merci à toi déjà.
Merci.
Ça, c'est sûr. Allez, je vais dire merci à Alexia, qui n'est plus là, mon amie qui n'est plus là, qui m'a vraiment fait prendre conscience que la vie pouvait s'arrêter demain. Je pense que, tu vois, il n'y aurait pas eu son décès. Est-ce que j'aurais mis plus de temps ou pas? Je ne sais pas.
Ce sont des décès qui étaient brutales.
Ouais, très brutal. Et du coup, tu vois, je me dis que ça a été le truc dans ma vie inattendu, hyper violent. Te dis, bah finalement, merci Alex, parce que grâce à toi, j'ai pris conscience de la valeur de la vie. Voilà. Et il y a plein d'autres personnes que je pourrais remercier, hein, tu vois.
J'ai de la chance d'avoir un mentor génial qui s'appelle Gilbert, que j'ai envie de remercier. Ça fait un peu école des fans. Qui tu as envie de remercier?
Bah oui. Est-ce que ta maman est dans le public?
Ma boss d'IFPNL, Françoise Ducreux, tu vois que j'adore, qui a été une ma personne, une rencontre incroyable. Enfin, il y a plein de personnes comme ça qui ont été des tremplins pour, ouais, pour ma vie, clairement.
Et tu disais là que t'as un mentor, ça consiste en quoi?
Alors ça, c'était justement quand j'étais dans l'incubateur, les premières Nouvelles-Aquitaine à Bordeaux, j'ai eu la chance de rentrer dans un programme de mentorat. Et Gilbert, bah, si tu veux, c'est un pilier, c'est pas un coach, c'est un mentor. C'est-à-dire, on fait des points régulièrement. Lui m'aide à prendre du recul sur le boulot où moi j'ai la tête dans le guidon. C'est une personne que j'apprécie énormément pour son franc-parler, pour son ouverture d'esprit, pour ses conseils et la justesse, si tu veux, de ses mots, vraiment.
Merci beaucoup, Aurélie.
Merci beaucoup, Charlotte. Hein. Vraiment, merci mille fois.
Avec grand plaisir. À très vite.
À bientôt, Charlotte.
J'espère que cet épisode vous aura plu. Pour suivre Aurélie, comme d'habitude, je vous mets tous les liens sur le blog pourquoipasmoi.co et sur Instagram ou LinkedIn. La semaine prochaine, nous allons retrouver ma première invitée du podcast, Pénélope Boeuf. Si vous avez des questions à lui poser, envoyez-les-moi à charlotte@pourquoipasmoi.co. Je vous dis à demain pour la newsletter hebdomadaire et à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi ?